vivons à une époque qui est vraiment unique dans l'histoire. Et nous nous approchons d'un temps que le Christ décrit comme un temps où il y aura une détresse sans pareille sur la face de la terre. Mais déjà, les événements qui sont autour de nous maintenant et qui s'en vont dans cette direction-là nous font réaliser que nous sommes dans une époque unique dans l'histoire. Ça nous a été donné de le comprendre, parce que pas beaucoup de gens sur la face de la terre comprennent vraiment le sens des événements qui se déroulent actuellement et où tout ça va mener, où tout ça va conduire. Ça nous a été donné également de pouvoir savoir quoi faire maintenant, au moment où nous sommes, dans des temps relativement calmes encore, et quoi faire devant ce qui vient. Et lorsque nous serons rendus plus proches ou même à l'intérieur des grands événements qui se préparent. Le titre de mon message aujourd'hui va exactement dans ce sens-là, être constamment proche de Dieu. Être constamment proche de Dieu. On nous dit, et c'est vrai, il nous faut prier chaque jour. Jamais on ne doit passer une journée sans s'adresser à notre Dieu, sans mettre notre journée entre ses mains et lui demander de faire sa volonté, d'être avec nous, de nous guider dans nos décisions pour qu'on fasse sa volonté, qu'on développe son caractère et qu'on soutienne son œuvre. Chaque jour, on doit le prier, c'est vrai. Et chaque jour aussi, comme M. Meredith nous y invite tellement souvent, on doit étudier sa parole, lire, plus que lire, mais étudier, approfondir ce que ça veut dire, ce livre-là, les paroles de Dieu, et en vivre. Et c'est à ça que j'en viens, c'est que prier et étudier, est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Il faut être capable d'aller plus loin pour ne pas être, comment je dirais, chrétien seulement des lèvres. Ou être chrétien seulement parce qu'on fait une certaine routine de prier, de lire, puis ensuite aller à nos occupations comme si c'était quelque chose de différent de notre vie. C'est notre vie. On a été appelés pour appartenir à Dieu, pour changer de façon de penser, pour changer de façon d'agir, pour changer de façon de faire les choses, pour contrôler nos émotions, nos pensées, pour amener toute pensée captive à Christ, pour développer son caractère, pour agir de plus en plus comme lui agirait s'il était à notre place. Et c'est pour ça que je dis que ça ne suffit pas de prier et ça ne suffit pas d'étudier. C'est seulement la base. Ensuite, il faut aller plus loin et agir de tout cœur pour mettre en pratique les choses que Dieu nous montre. Comme la Bible dit, pour vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si je le mets en termes temporels pour nous chaque jour, c'est de vivre constamment en étant proche de Dieu, en cherchant à faire sa volonté. À lui qui a tout créé, qui a tout fait toute la beauté qui existe dans les cieux, même dans les plantes, dans les animaux. Lui qui nous a donné la vie sur le plan physique et qui veut nous donner la vie sur le plan spirituel éternellement. Mais on a un rôle à jouer. Et dans ce rôle-là, il faut s'assurer d'être constamment proche de Dieu. Vous savez, au point de départ, il faut réaliser une chose. Nous sommes de niveau humain. Comme la Bible l'explique, on comprend les choses humaines. Humainement, et on comprend les choses physiques à différents degrés, avec les talents que Dieu nous a donnés. Mais ce qui est spirituel, par contre, ça dépasse le niveau de compréhension humain naturel. Ce qui est de nature spirituelle, ça dépasse le niveau de compréhension physique. Vous savez, il ne faut pas qu'on s'en limite à la connaissance de la Bible. Certains individus connaissent très bien la Bible, l'ont lu pendant des années, des années, des années. Ces gens-là peuvent vous citer les versets presque par cœur, sinon par cœur. Mais un certain nombre de ces gens-là, malheureusement, n'ont pas la compréhension spirituelle de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils ont lu ou de ce qu'ils peuvent citer par cœur. Il ne faut pas se laisser impressionner par ces choses-là. C'est ceux qui font la volonté de Dieu qui appartiennent à Dieu. Le Christ a bien dit, hein? C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ou qui connaissent leur Bible par cœur, ou qui peuvent en parler des heures de temps, qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté de Dieu. J'ai connu, je me rappelle, à un moment donné, un homme qui ne savait pas lire. On lui a lu la Bible au cours des mois et des années. Cet homme-là s'est converti, il a été baptisé et il est mort dans la foi. Il attend sa couronne actuellement. Ce n'était pas un grand érudit selon le monde actuel. Pourtant, il connaissait les choses les plus importantes de l'existence humaine et il les comprenait spirituellement. Il n'aurait pas pu tout vous citer les versets par cœur, mais il savait ce que c'était et il en a vécu. Et ça a été un exemple vivant de quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, qui comprend les choses de niveau spirituel. Il avait la connaissance, mais il avait la compréhension. Et cette compréhension-là, c'est important qu'on le sache, ne vient que par le Saint-Esprit de Dieu. Et on obtient le Saint-Esprit de Dieu pour comprendre les choses spirituelles que si nous travaillons à lui obéir. Si on ne travaille pas pleinement et de tout cœur à lui obéir, la compréhension n'est pas là, même si on a toute la connaissance. Je vais plus loin. On est à l'époque de Laodicée, c'est clair. L'époque de Philadelphie est terminée. Mais les vrais serviteurs de Dieu doivent continuer à être des Philadelphiens, avoir tout leur cœur dans l'œuvre, avoir de l'amour les uns pour les autres, à mettre leur priorité en Dieu, à marcher avec lui, à être constamment proche de lui, de tout cœur, pour lui obéir. Les Laodicéens, ils ont la connaissance. Ce sont des membres de l'Église. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la compréhension. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la compréhension? Parce qu'ils ne changent pas tout ce qu'ils ont à changer dans leur vie. Donc, ils en restent davantage au niveau de la connaissance plutôt que d'aller du côté de la compréhension. Et ils ont encore un bout de chemin à faire pour vraiment appartenir à Dieu. Ils ne changent pas vraiment. Et c'est pour ça que si vous allez voir dans Apocalypse 3, lorsque Dieu décrit l'attitude des Laodicéens, il dit « Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, nu, que tu ne comprends pas. Tu ne le sais pas que tu ne comprends pas. Parce que tu ne mets pas en pratique les choses que tu dois mettre en pratique comme tu devrais le faire. Tu y vas à moitié. » Mais si on fait le contraire, si on essaie de servir Dieu de tout notre cœur, même si on n'est pas parfait, Dieu sait qu'on n'est pas parfait. Il sait de où on part. Dieu est patient. Sa miséricorde est immense. Et il est toujours prêt à aider la personne qui se repent, qui regrette d'avoir manqué son coup encore sur tel point, mais qui va devant le trône de miséricorde pour être pardonné, pour être secouru. Dieu l'aide encore. Dieu ne le met pas de côté. Absolument pas. Et Dieu va conduire cette personne-là plus loin. Et si nous faisons ça, si nous continuons de nous repentir activement dans tous les aspects de notre vie, Dieu va nous donner la force. Il va nous aider à passer à travers les tests, les épreuves, les obstacles qu'il va y avoir. Et vous allez de plus en plus voir Dieu en tout, le voir intervenir directement dans votre vie, même dans les petites choses de vos journées. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous allez être en train de marcher avec lui. Si vous marchez avec lui, c'est qu'il est avec vous. Il est tout proche. Et si je lui parle le matin, je remets ma journée entre ses mains, que j'étudie sa parole, que je m'en nourris en commençant ma journée et qu'ensuite je m'applique à faire les choses que je connais, à être la culture de Christ, Dieu sera avec moi et il va me guider dans les choses que j'aurai à faire au cours de la journée. Et si je lui demande son aide, il va me répondre. Indéniablement, infailliblement, Dieu répond à celui qui demande. Demandez et vous recevrez. Mais demandez si vous êtes proche de lui. C'est ça la différence. Les Israélites, nos anciens ancêtres, ont crié à Dieu et ils sont sortis de l'Égypte. Ils étaient esclaves. Ils étaient dans une situation épouvantable. Nous, Dieu nous a sortis de l'Égypte moderne, de cette société qui n'est pas le monde de Dieu. Il nous a sortis de là. Il nous a aidés à voir autre chose, à avoir la connaissance de ce qui s'en vient, le merveilleux monde à venir. Et il a dit, « Je mets tout à votre disposition. Je vous donne mon esprit pour que vous soyez capables de vaincre vos faiblesses et d'aller plus loin, de vivre selon toute parole qui sort de ma bouche. Mais vous avez une part à faire. Vous avez un rôle à jouer. » Et de vous éloigner du mal et de prendre la décision claire de mettre en pratique les choses que je vous montre en me suppliant régulièrement de vous donner la force d'être capable de le faire. Et je vais le faire parce qu'il veut nous amener à terme. Dieu avait dit aux Israélites, laissez ce qui est mal derrière vous. Laissez l'Égypte derrière. Et vous vous rappelez, on a vu souvent quand on a étudié ce contexte-là que les Israélites ont quitté l'Égypte, mais que l'Égypte ne les a jamais quittés. Ils ont gardé dans leur cœur les choses d'autrefois. Et nous, on ne doit pas garder nos anciennes façons de faire dans notre cœur. C'est un changement total auquel Dieu nous appelle, vraiment un changement total. Et c'est seulement avec son aide qu'on peut y arriver. Vous savez, c'est triste, mais il y a certains baptisés dans l'Église qui continuent de garder leur nature humaine ou une partie de leur nature humaine, qui ne sont pas vraiment déterminés à travailler pour tout éliminer ce qu'ils ont à éliminer. Et ça, à ce moment-là, ça les place dans une catégorie qu'on appelle les Laodicéens, qui pensent être riches, qui pensent être arrivés, qui pensent entrer dans le royaume avec cette connaissance-là, mais sans vraiment travailler à changer dans leur vie. C'est triste de voir ces choses-là. Mais certains baptisés gardent leur nature humaine ou gardent une partie de leur nature humaine sans vraiment travailler, là, et je parle travailler avec zèle pour arriver à vaincre leur faiblesse et à développer le caractère de Dieu. Vous savez, avec Dieu, c'est tout ou rien. Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait tout de suite. Je ne le suis pas. Et je ne le serai pas tant que le Christ ne m'aura pas rendu parfait au jour de son retour. Mais il faudra que je sois en train de continuer à me perfectionner jusque-là. C'est ça le cheminement que nous devons faire. Mais certains baptisés dans l'Église gardent leur nature humaine. Avec toutes sortes de raisonnements. La nature humaine, vous savez, elle est basée sur le cœur tortueux de l'homme. On a nos petits raisonnements. Je sais que je suis un être humain aussi, puis je dois me battre contre ça aussi. Certains vont dire, je ne changerai pas telle chose parce que, ou j'aime ça, ça me plaît tellement. Vous savez? Et là, je suis ma convoitise, je suis mes désirs humains plutôt que de suivre la volonté de Dieu. Ou ce que je fais, c'est pas si mauvais que ça, après tout. Quand je compare à certaines personnes qui font des choses pires que moi, donc je suis meilleur qu'eux. Et si je suis meilleur que d'autres qui, selon moi, font pire, donc, aux yeux de Dieu, je dois être bon. Absolument pas. Mauvaise réponse. Je suis mauvais parce que je ne suis pas en train de changer ce à quoi je me suis engagé le jour de mon baptême. J'ai dit à Dieu, je t'appartiens, fais ce que tu veux de moi. Montre-moi à tout changer, à devenir comme le Christ. Je ne suis pas du tout comme le Christ, mais je veux devenir comme lui. Alors certains disent, c'est pas si mauvais ce que je fais. Alors voyez-vous, ça donne une impression d'assurance, mais c'est une fausse assurance. C'est basé sur les sables mouvants de la civilisation de Satan. D'autres vont dire, j'ai encore du temps, le Christ n'est pas revenu. Et on sait que ce n'est pas pour demain matin, c'est d'ici quelques années, on ne sait pas exactement combien, mais j'ai encore du temps. Est-ce que vous serez là demain matin? Est-ce que vous serez là la semaine prochaine? Vous qui dites qu'il y avait encore du temps, c'est quoi avoir du temps? Vous pouvez être mort demain, vous pouvez vous endormir ce soir et que l'histoire pour vous soit terminée alors que vous avez eu le temps que Dieu vous a donné pour faire ce que vous aviez à faire, et moi aussi. Alors voyez-vous que cette argumentation-là, elle est fausse. Elle est complètement biaisée, complètement faussée. D'autres vont dire, avec cette fausse assurance de ceux dont je viens de vous parler, d'autres vont dire, quand je vais voir les sacrifices recommencer à Jérusalem, là, je vais mettre le paquet pour changer. Essayez pas de négocier avec Dieu en disant à Dieu, tu m'as appelé trop tôt, laisse-moi faire mes choses comme je veux. Et quand va venir le temps, là, je ferai ce que tu me demandes de faire. Ne jouez jamais ce jeu-là avec Dieu. Ne jouez jamais ce jeu-là avec Dieu. Parce que voyez-vous, quand on sait que les sacrifices vont recommencer, et on sait qu'à partir de là, il y aura un temps déterminé avant le retour de Christ, mais quand les sacrifices vont recommencer, si vous n'avez pas fait les efforts de vous préparer d'ici là, qui vous assure que vous allez comprendre ce qui se passe, que vous allez prendre la bonne lecture des événements, et que vous allez savoir comment réagir à ce moment-là. Vous aurez la connaissance. Vous aurez la connaissance, parce que vous savez que les sacrifices vont reprendre. La connaissance, vous l'avez. Mais si vous n'êtes pas prêt, parce que vous ne vous êtes pas préparé, vous n'aurez pas la compréhension. Et si vous n'avez pas la compréhension, vous ne serez pas là où vous devriez être à ce moment-là. Et vous n'aurez pas les bénédictions que Dieu va accorder à ses fidèles serviteurs qui sont imparfaits, mais qui travaillent continuellement à vraiment changer tout ce qu'ils ont à changer dans leur vie à mesure que Dieu leur montre de changer. J'ai entendu un autre raisonnement déjà aussi. Je pense que ça vaut la peine que je vous le dise. De quelqu'un qui était dans l'Église. La personne m'avait dit, le Christ a dit, « Je ne perdrai aucun de ceux que le Père m'a donnés. » Est-ce que c'est biblique ou pas? C'est biblique, vous pouvez le voir. « Je ne perdrai aucun de ceux que le Père m'a donnés. » La personne m'a dit, « Je suis assuré de mon salut. » Et cette personne-là avait des choses à changer, grosses comme l'édifice ici, qui était tellement évident pour plein de gens autour. Sauf pour la personne en question. Même que j'avais déjà parlé à cette personne-là en lui disant de faire attention, de changer certaines choses. Et ça avait été très mal reçu. La personne était assise sur sa compréhension de la petite connaissance qu'elle avait. Le Christ a dit, « Je ne perdrai aucun de ceux que le Père m'a donné. » Et lui se considérait comme un de ceux-là. Mais pour bien comprendre ce qui a été dit là, il faut savoir qui parlait, c'était le Christ. Le Christ, lui, ne nous perdra pas en cours de route. Parce qu'il a dit, je te délaisserai jamais, je t'abandonnerai jamais. Autrement dit, lui va faire sa part du contrat jusqu'au bout. Si moi, je ne fais pas la mienne, il ne me gardera pas, par exemple. Mais ce qu'il était en train de dire ici, c'est, moi, je vais faire ma part de sorte que si l'autre fait sa part, la personne va entrer dans le royaume. Voyez-vous la différence? Il faut comprendre le contexte. Ce n'est pas appeler un jour et sauver pour toujours comme si c'était fait éternellement. Absolument pas. Le Christ a dit, moi, je vais faire ma part et moi, de mon côté, je ne perdrai aucun de ceux que Dieu a attirés à moi si la personne continue d'être fidèle. On revient, c'est le même Jésus-Christ qui a dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et si je ne fais pas la volonté de Dieu, je ne serai pas là, même si le Christ a mentionné ça. C'est important. Allez dans 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. Ici, c'est le prophète Azaria qui va avertir le roi Asa de détruire l'idolâtrie qu'il y avait dans la nation. Regardez versets 1 et 2. « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria. » Et Dieu se sert de ses serviteurs, les ministres ou à ce moment-là les prophètes, pour avertir les siens, pour avertir sa nation ou pour avertir les membres de l'Église, pour les mettre en garde, pour les encourager, les diriger. « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. » Et regardez le principe sur lequel je veux attirer votre attention et que le prophète a mentionné au roi d'Israël. « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » C'est simple, simple, hein? « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Mais lui qui vous a appelé à changer, si vous ne changez pas, si vous ne travaillez pas à changer tout ce que vous avez à changer, comprenez-vous que l'Éternel n'est pas avec vous vraiment? N'est pas avec vous comme il pourrait être avec vous, pour vous bénir, pour vous aider, pour vous encourager. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il parle ici à des gens que Dieu appelle, avec lesquels il a commencé à travailler. Ça nous dit comment faire pour s'approcher de Dieu. Ça nous dit comment faire pour s'en éloigner aussi, ou pour éviter de s'en éloigner. C'est pour ça que vous et moi, on doit se débarrasser d'abord de nos mauvaises pensées pour être capable de se débarrasser ensuite de nos mauvaises actions, de nos mauvaises réactions, de nos mauvaises émotions. On doit travailler au niveau de notre pensée. On ne réalise pas toujours qu'on est en train de s'éloigner de Dieu quand on fait des choses douteuses ou ce genre de faiblesse-là. Mais quand on fait ça ou quand on garde des choses qu'on doit changer, à ce moment-là, on s'éloigne de Dieu sans s'en rendre compte et on s'affaiblit. Ésaïe 59. C'est très clair. Ésaïe 59, on va lire le verset 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Quand on crie à lui pour avoir l'aide dans quelque situation que ce soit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. L'Éternel entend toujours les prières qu'on lui adresse. Mais, il y a un « mais » ici, là. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, un mur, entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes, les fautes que vous gardez, que je garde, si c'est le cas, qui mettent un mur entre Dieu et moi. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et je vais plus loin, et l'empêchent de vous bénir. Aussi simple que ça. On a besoin actuellement de ces bénédictions. Et on aura encore plus, dans le futur proche, besoin de ses bénédictions, de sa protection, de son aide, de ses consolations pour nous aider à passer à travers. Il ne faut pas qu'il y ait de barrière entre moi et Dieu. Et c'est ce à quoi je dois travailler pour être toujours proche de lui, pour marcher constamment avec lui, pour être toujours proche de lui. Vous savez, humainement, on a tendance à être tenté de se convaincre nous-mêmes que nous n'avons pas péché ou que nos péchés ne sont pas si graves. Mais M. Appartient l'a expliqué souvent, un péché, c'est un péché. Il n'y a pas de grand et de petit péché. Un péché, c'est la transgression. Et un péché, c'est de se couper de Dieu. Et regardez Jean chapitre 9. Ça vaut la peine qu'on aille voir ce verset-là qui est très, très clair. Ce que le vieil apôtre Jean a écrit ici, Jean chapitre 9, et le verset 31. Très clair. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Oh! Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Bien sûr, les pécheurs de façon générale dans le monde, d'accord. Mais ceux qui continuent à pécher et qui ont été appelés, qui ont développé un rapport avec Dieu, si ces gens-là continuent à garder des fautes dans leur vie, il est clair ici, Dieu dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, ou soyons plus précis, on n'est pas parfait, travaille à faire sa volonté au mieux avec l'aide de Dieu, il l'exauce. Il l'exauce selon les besoins réels de cette personne et en vue d'accomplir le but pour lequel Dieu lui a donné la vie physiquement et spirituellement, c'est-à-dire l'amener à faire partie de sa famille pour l'éternité. En comprenez-vous que je ne dois pas laisser de mur entre moi et Dieu pour que Dieu soit empêché de m'écouter quand je vais à genoux pour lui parler avec un cœur sincère? Même si j'ai un cœur sincère, si je garde des choses que je n'ai pas à garder dans ma vie, le mur est là et Dieu ne m'entend pas. Il attend que je me repente. Bien sûr, même quand on est baptisé, on a des tests. On a des tests avant d'être baptisé. Vous qui avez été baptisé ici, vous savez qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est sur le point d'être baptisé. Souvent, l'adversaire met des obstacles et pas de petits obstacles. Des fois, des grands moments de découragement ou des grands moments de doute. Et finalement, lorsqu'on vainc ces doutes-là par l'aide de Dieu, qu'on comprend ce que c'est que le baptême, qu'on comprend ce que c'est que cet engagement sacré qui a une portée éternelle, bien, on passe par les eaux du baptême. Un ministre de Dieu nous impose les mains ensuite pour qu'on reçoive le don du Saint-Esprit. Et voilà, on appartient à Dieu. On est cette nouvelle créature qui commence une vie spirituelle d'un autre ordre avec l'aide de Dieu en nous, avec la présence du Christ en nous. Mais on continue pour autant à avoir des tests. Et ce n'est pas sans raison, parce que c'est avec ces tests-là et ces épreuves-là que Dieu développe en nous son caractère, à mesure qu'on se fie à lui, qu'on demande son aide, qu'on apprend à prendre les bonnes décisions, qu'on tire leçon de nos erreurs passées et tout ça. Là, on développe son caractère. Et Dieu, en ça, nous prépare pour les fonctions qu'on aura dans le monde à venir. Mais on peut avoir l'assurance que Dieu nous aime lorsqu'on passe par les eaux du baptême, qu'on s'engage à marcher dans ses voies. On peut avoir l'assurance que Dieu nous aime et que par sa force, nous allons pouvoir vaincre toutes nos faiblesses, que nous allons pouvoir passer à travers toutes les épreuves, quelles qu'elles soient, même les moments de découragement qui viennent, tôt ou tard, d'une façon ou de l'autre. Mais pour en sortir, c'est par la force de Dieu, c'est par la force du Christ en nous. Romains 8. Romains chapitre 8. Et on va lire le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et regardez, et il intercède pour nous. Le Christ intercède pour nous. Pourquoi? Écoutez, il a payé un prix tellement grand pour que vous soyez appelés, pour que vous soyez lavés de vos fautes dans les eaux du baptême, pour qu'ensuite vous receviez son esprit, l'Esprit de Dieu, et qu'il puisse travailler avec vous pour vous amener à terme, pour que vous accomplissiez le but pour lequel vous existez, pour lequel il vous a appelé. Pensez-vous qu'il va vous laisser tomber? Non, il ne vous laissera pas tomber. Il dit, je ne veux pas perdre personne de ceux que le Père m'a donné. S'ils se perdent, c'est leur choix, c'est leur responsabilité. Mais le Christ intercède pour nous. Et il continue en disant, verset 35, « Qui nous séparera de cet amour incroyable du Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs malgré les épreuves, les tests. Nous sommes plus que vainqueurs comment? Par celui qui nous a tant aimés. Par celui qui nous a aimés. Parce que c'est par la force du Christ en nous que nous pouvons réussir ces choses-là. À passer à travers toutes les épreuves et les difficultés, les découragements, les moments creux, les attaques des autres, tout ce que vous voulez, quelles que soient les situations. Verset 38. Car j'ai l'assurance, voyez-vous, c'est pas peut-être, là, j'espère, non, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Une assurance absolue. Autrement dit, si je fais ma part, je suis assuré que je vais me rendre, quelles que soient les choses par lesquelles j'ai à passer. Bien sûr, on aura des hauts et des bas, mais nous devons toujours, en tout ça, être proche de Dieu. C'est la clé. Et demander à Christ, plus ça va, plus je demande souvent au Christ d'agir en moi. Je lui dis, Jésus, toi, tu es mon grand frère, combat en moi, combat pour moi. Aide-moi à voir les choses comme toi tu les vois, pour que ce soit agréable à Père. Et pour faire votre volonté, puis pour me préparer aux choses qui viennent. Combat en moi. C'est toi le chef de l'armée de l'Éternel. C'est toi le Tout-Puissant comme Père. Comme Père et Tout-Puissant. Et dans ce sens-là, la part que j'ai à faire, puis que vous avez à faire, c'est de constamment, en tout temps, travailler à maîtriser nos pensées, à maîtriser nos émotions, à maîtriser nos sentiments négatifs. Parce que ce sont autant de pièges, autant de moyens que l'adversaire utilise pour nous retarder, pour nous décourager, pour nous détourner et, en fin de compte, pour nous détruire. On est des êtres humains avec des émotions, avec des pensées, avec des sentiments, mais il faut les contrôler, il ne faut pas se laisser contrôler par nos émotions ou par nos pensées. Et il y a moyen de contrôler nos pensées, c'est la maîtrise de soi. C'est un des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Et ça vient comment, les fruits de l'esprit? Ça vient de l'esprit. Et il faut le demander. Ça aussi, il faut demander à Dieu qu'il nous l'accorde. Ou quand on a des doutes, demander à Dieu de nous aider à chasser ces doutes-là, à prouver les choses qu'on a approuvées. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas de notre ressort, demander à Dieu la sagesse de mettre ces choses-là sur la tablette en attendant que Dieu nous donne la réponse à nos questions. Tout simplement. Pas essayer de répondre ça, de répandre ça non plus dans l'Église pour créer des problèmes à gauche et à droite. Si j'ai des questions, je vérifie les choses dans la Bible, je demande à Dieu de m'éclairer, je demande au ministère. Si c'est des choses que je peux avoir comme réponse et ce que je peux comprendre, formidable. Si je ne les comprends pas, je peux demander à Dieu de m'aider à les comprendre maintenant ou plus tard, quand ce sera son choix. Mais je ne remets pas en cause mon appel, la puissance de Dieu, son amour, le sacrifice de Christ, ce qui nous attend, ce que Dieu a promis. Je ne remets pas en question ça dans cette foulée de doutes qui peuvent venir et que l'adversaire peut entretenir. Dès qu'il y a des doutes comme ça, il faut que je sois sur mes gardes. Ou qu'il y a des pensées négatives, ou des pensées d'accusation ou de blâme à l'endroit de d'autres. Il faut contrôler nos pensées. Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4. On va lire ici versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui parle, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » La vocation qui nous a été adressée, c'est l'appel qui nous a été adressé. Le Père vous a attiré vers le Christ. Et dans tous ceux qui avaient été attirés vers le Christ, selon la manière de réagir, le Christ a choisi. Le Christ a bien dit, c'est moi qui vous ai choisi. Mais c'est le Père qui attire, on le sait. Alors le Christ dit, je vous ai choisi et je travaille avec vous. et je vous promets de vous amener à terme si vous êtes fidèle, si vous faites votre part. Mais nous, notre part, c'est de marcher de façon digne de cet appel-là, de cette vocation-là, en toute humilité, en sachant que j'ai encore énormément de choses à apprendre. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Et j'en aurai jusqu'au retour de Christ. Et j'en aurai sans doute encore après à apprendre. Voyez-vous? Mais c'est l'attitude que nous devons avoir. Pas celle de vouloir dire, moi je sais tellement de choses que je peux enseigner les autres, même si je suis un membre d'Église, et que je peux leur dire quoi faire ou les corriger ou quoi que ce soit. Non. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, parce qu'on n'est pas parfait. Et parfois, on peut, sans s'en rendre compte, blesser quelqu'un ou créer certaines choses qui ne sont pas souhaitables. À ce moment-là, on peut s'excuser lorsqu'on s'en rend compte et travailler à agir autrement dans le futur. Mais on fait partie de la même famille. Et comme une famille, on doit s'encourager, pas se détruire ou se décourager. Vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. On attend la même chose. On croit au même Dieu. On croit au même Évangile. On fait la même œuvre. Ce tout petit troupeau de Dieu-là doit avoir une unité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été aussi appelés à une seule espérance par votre appel, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il ne peut pas y avoir trois, quatre sortes de baptême dans différentes organisations. Il y a un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et c'est pour ça qu'il nous faut marcher d'une manière digne de notre appel. Il y a un petit Dieu dans ce monde qui a caché la vérité à l'ensemble de l'humanité et qui veut nous amener encore à douter. Ça, vous trouvez ça dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Vous pourrez le lire vous-même. C'est que Satan a aveuglé les yeux des incrédules, et de sorte que l'humanité est encore incrédule face aux choses de Dieu. Et ça va loin, parce que beaucoup de gens, dans le christianisme, dans son ensemble dans le monde, beaucoup de gens croient en Dieu. C'est vrai. Mais très peu de gens croit Dieu, croit ce qu'il dit et croit ce qu'il dit de faire. Et c'est toute la différence. C'est toute la différence. Vous avez un grand nombre de religions chrétiennes, des petites et des grandes, qui croient Dieu, qui parlent de Dieu, qui croient en Dieu, je veux dire, et qui parlent de Dieu, mais qui ne croient pas Dieu et qui ne disent pas de faire ce que Dieu nous commande de faire. Et par ça, on peut identifier qui est de Dieu vraiment et qui ne l'est pas. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. C'est une grande réalité à laquelle nous devons faire face, qui est décrite ici. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. C'est pas peu de choses. Quand on dit ça dans nos émissions de télévision, je pense que les gens ne réalisent pas ce que ça veut dire vraiment. Satan a séduit toute la terre. C'est pas peu de choses, là. C'est pas quelques millions de personnes à gauche et à droite. Toute la terre, toute l'humanité depuis le début de l'humanité. Il y a seulement les quelques-uns que Dieu a appelés au cours de l'histoire, très peu nombreux dans l'Ancien Testament, et les quelques-uns que Dieu a appelés depuis la fondation de l'Église par le Christ, lorsqu'il est venu, il y a environ 2000 ans. Il y a seulement ceux que Dieu appelle, le tout petit troupeau, qui comprennent ces choses-là et qui sont en mesure de savoir vraiment ce qui se passe en arrière-scène, qu'il y a l'adversaire de Dieu qui brouille les cartes, qui sème le doute et qui amène les gens sur une fausse piste totalement. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il y a juste ceux que Dieu appelle qui peuvent sortir de cette tromperie, comprendre qu'ils ont été séduits et apprécier la précieuse vérité que Dieu donne dans sa parole. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance du règne de notre Dieu Bientôt, ça sera proclamé et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, on revient là-dessus, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'accusateur, c'est lui. Alors, il faut se méfier. Ne jamais craindre Satan, mais s'assurer d'être proche de Dieu et de travailler à faire sa volonté. Psaume 115. Psaume 115, s'il vous plaît. Psaume 115, nous allons lire les versets 1 à 8. Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Nous devons être humbles, on vient de le lire. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu, y compris la vie, le souffle, la capacité de voir, d'entendre, la capacité de connaître, de comprendre, tout ça nous a été donné. Non, pas à nous, Éternel, pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Par contre, il ne force personne. Il nous laisse le libre choix. Mais à un moment donné, il va tracer la ligne. Et quand la ligne sera tracée, ce sera terminé. Ceux qui auront eu à choisir devront avoir choisi et fait les choses qu'ils devaient faire. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. On parle de la société en général ici. Elles ont une bouche et ne parlent point. On voit toutes les statues dans les églises. Elles ont des yeux et ne voient point. On voit les gros Bouddhas, les religions du monde qui ont toutes sortes de figures représentant, selon leur conception humaine, qui pourrait être Dieu. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Je comprends, parce que ceux qui fabriquent ces dieux-là fabriquent des dieux à leur image. C'est intéressant, hein? Dieu a créé l'homme à son image pour qu'on devienne, à travers les expériences et par son Saint-Esprit, à son image. Mais les êtres humains qui ont rejeté Dieu, qui ont suivi Satan, se créent des dieux à leur image. Dieu a dit, vous voulez vous faire des dieux? Allez-y. Vous allez voir que ces dieux-là ne vous aideront pas beaucoup. Ils ne sont pas capables de parler, ils ne sont pas capables d'entendre, ils ne sont pas capables de répondre. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Il y a une différence entre Dieu et ses voies et ses œuvres et Satan et ses œuvres. Je me rappelle en 2014, quand on est allé à la fête en Europe, on avait visité des lieux historiques et sur cet emplacement-là, il y avait une grande cathédrale ou une église catholique. Et il y a un jeune homme que j'aime bien dans l'église, qui est né dans l'église d'ailleurs, qui a grandi dans l'église, un adolescent qui était avec moi. Et on se promenait dans cette église-là. Et à un moment donné, on est arrivé devant une niche creusée où il y avait une statue d'un supposé saint ou de la Sainte Vierge, de quelqu'un qui était mort, qui a été canonisé. Et puis, en avant de la statue, ben, c'était plein de bougies, là, de lampions que les gens avaient payé pour allumer. Et le jeune homme m'a dit, « Monsieur Brochu, c'est quoi tout ça? » Lui, il ne connaissait pas ça, c'est la première fois qu'il voyait ça en face comme ça. Alors, je lui ai dit, « Les gens viennent ici, pensent que la personne qui est soi-disant représentée là, elle est vivante quelque part, et pensent que cette personne-là pourrait lui répondre, leur répondre. Alors, ce qu'ils font, ils achètent au ministère de l'Église, des chandelles ou des lampions, ils mettent le feu et le font brûler en espérant que ce soi-disant saint ou que cette statue réponde à leur prière. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Je sais. Dieu nous a révélé autre chose que ça. Mais c'est ce que Dieu décrit ici. Et c'est vraiment frappant. C'était beau de voir un jeune qui n'avait jamais été exposé à ça, voir comment c'était insensé de faire du feu en avant d'un bout de plâtre. En espérant que le bout de plâtre allait les aider. J'ai aimé l'expérience. 1 Pierre chapitre 5, ce qu'on a à faire, nous. On connaît mieux que ça. On connaît la vérité. Il y a une seule vérité. Il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul avenir formidable que Dieu réserve à ses serviteurs fidèles et qui va offrir au reste de l'humanité quand Christ sera revenu. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 8. Soyez sobre. Ça, c'est ce qu'on doit faire pour être proche de Dieu et rester proche de Dieu. En anglais, c'est soyez self-controlled. Ayez la maîtrise de vous-même. Ça revient à ça, ce que je vous disais tantôt. maîtriser nos pensées, nos émotions, nos réactions, ne pas suivre nos pensées automatiquement, ne pas suivre nos émotions, ne pas suivre nos doutes, mais les remettre en question et crier à Dieu lorsque ça vient pour avoir l'aide nécessaire pour les contrôler. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il a commencé ce stratagème-là dans le jardin d'Éden avec Ève et Adam. Et il le continue jusque de nos jours et il va continuer jusqu'à la fin. Il est là, il travaille ses démons aussi. Alors, il faut être modéré dans tout. Il faut avoir la maîtrise de soi-même. Et il dit, soyez sobres et veillez. Veillez, ça veut dire regarder ce qui se passe dans le monde, comme les nouvelles que je vous ai annoncées tout à l'heure. Le rôle du ministère dans l'Église, c'est de donner aux membres l'information du sens des événements prophétiques qui s'accomplissent, pour qu'on sache où on est rendu et qu'on continue de se préparer. C'est fort parce que même les dirigeants du monde, pour la plupart, ne comprennent pas ce qui se passe. Comme par exemple dans la situation économique financière dans laquelle le monde dans son ensemble se trouve actuellement. Très peu de gens le comprennent, même les grands économistes et les chefs d'État, ou un certain nombre d'entre eux, s'ils le comprennent, ils font semblant de ne pas le comprendre pour être capables de continuer à garder leur poste et à faire croire aux gens que ça va continuer de bien aller. Comme ils ont dit avant la crise de 1929, une semaine ou deux avant, les grands économistes et les dirigeants disaient « Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crise qui s'en vient, tout est sous contrôle, tout va bien. » Exactement le même discours qu'on entend maintenant, alors qu'on voit les failles dans le mur du système monétaire international et que le dollar américain est bientôt mis à risque de façon majeure. J'aurai à vous en reparler avant longtemps, mais les gens ne le voient pas. La catastrophe financière approche et la plupart des gens ne le voient pas et pensent que tout va aller bien, comme par magie, comme par miracle. Non, ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça. Restez proches de Dieu. Fuyez le péché, ne vous découragez jamais. Tenez bon dans ces choses-là. Et Dieu va vous donner la force de surmonter toutes les circonstances et de vaincre vos faiblesses. Verset 9. Résistez-lui. Résistez à Satan. Avec quoi? Avec une foi ferme. Croyez ce que Dieu dit. Quand Dieu dit « Je vais vous protéger, je vais vous défendre », avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et c'est vrai. Vous n'êtes pas les seuls, ou vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir les souffrances que vous avez. Les autres dans l'Église, dans le monde, passent par les mêmes choses. Et les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu passent également par des souffrances, et parfois des souffrances beaucoup plus grandes, et des inquiétudes beaucoup plus grandes, ne sachant même pas ce qui vient. L'angoisse d'être devant le néant, d'avoir à rencontrer des situations épouvantables, mais n'ayant pas de réponse à leurs questions, ni de réponse à leurs doutes ou à quoi que ce soit dans ce sens-là. Nous, on peut garder les yeux sur le Christ, celui qui donne la foi, et je peux lui demander de m'en donner davantage. Donne-moi ta foi, Seigneur Jésus. Je sais que ma foi, elle n'est pas solide. Ma foi humaine ne vaut rien. Donne-moi ta foi. Aide-moi à voir les choses comme toi tu les vois. Et donne-moi la force de faire ce que je dois faire. Combat pour moi, combat en moi. Vous et moi, on doit avoir les yeux sur le Christ dans les semaines et dans les mois qui viennent. C'est lui, notre grand berger. Vous irez voir dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas deux vérités. On a vu tantôt le Christ intercède pour nous et on sait que le Christ vit en nous si nous lui demandons de vivre en nous par son Saint-Esprit. Lorsqu'on est baptisé, qu'on reçoit son Saint-Esprit, le Christ vit en nous et il agit en nous si notre cœur est disposé à ça, si on se soumet à lui humblement. On a vu l'aspect humilité à quel point c'est important tantôt et qu'on lui demande de voir les choses à sa façon et de faire les choses que nous devons faire. Vous irez voir dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien. » De qui? De ceux qui aiment Dieu. Et c'est qui, ceux qui aiment Dieu? 1 Jean 5, verset 3 le définit clairement. 1 Jean 5, verset 3, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu. C'est extrêmement simple. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui gardent ses commandements. Pas à demi, mais qui mettent tout leur cœur, malgré leurs faiblesses, malgré qu'ils n'y arrivent pas parfaitement, mais qui mettent tout leur cœur à le faire. Ésaïe 55. Ésaïe, chapitre 55. Et nous allons lire à partir du verset 6. Et ça, ça s'adresse à nous maintenant de façon particulière. C'est un principe qui a toujours été vrai. Mais surtout à nous qui sommes rendus au temps de la fin, et comme je mentionnais au début du sermon, qui vivons une époque sans pareil dans l'histoire humaine. Ça s'adresse à nous particulièrement. Cherchez l'Éternel. Donc, approchez-vous de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce que le jour vient où Dieu ne se laissera plus trouver, que cette étape-là sera terminée. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve encore. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et si vous vous êtes malheureusement éloigné de lui, c'est le temps de revenir. Il y a encore du temps, c'est pas terminé. On peut chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve encore, mais ne pas prendre la chance d'arriver trop tard et que la porte du royaume soit fermée, comme pour les vierges folles. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, c'est tellement encourageant, qui ne se lasse pas de pardonner. Pour nous, c'est maintenant. Je ne vous apprends rien, mais ce n'est pas dans 10 ans. Pour nous, c'est maintenant. Et pour qu'on soit prêt un peu plus tard, lorsque les événements vont se bousculer, lorsque les prophéties vont se réaliser de façon éclatante, il faut que nous nous préparions maintenant. Si nous ne sommes pas prêts maintenant, là où nous sommes, nous ne serons pas prêts plus tard. Tout ça va ensemble. Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. Ici, Dieu nous donne le plan à suivre pour marcher avec lui, pour être proche de lui. Michée 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Et c'est vrai, Dieu vous a révélé ce qui est bien. Dieu vous a révélé, à vous et à moi, qu'est-ce qu'on doit faire. Il nous a montré ses lois, ses commandements, ses fêtes. Et il a dit, observez-les. Laissez les fêtes du monde de côté. Abandonnez ces choses-là, qui sont des choses qui ne sont pas de Dieu, au contraire, qui sont de l'adversaire. Faites ce que je vous dis. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Vous, ce n'est pas en cachette que Dieu fonctionne. Il révèle à ceux qui l'appellent ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que tu pratiques la justice. La justice de Dieu, c'est l'observance de ses lois. La justice de Dieu, c'est l'observance de ses lois. Un, que tu pratiques la justice. Deux, que tu aimes la miséricorde. Parce que Dieu est miséricordieux envers moi, moi, je dois être capable de pardonner à qui que ce soit qui m'a fait ou qui m'ont fait quoi que ce soit. Parce que j'ai fait pire. J'ai causé la mort du Christ, moi, personnellement. Et vous pouvez dire la même chose. Alors, c'est pour ça que Dieu aime celui qui aime la miséricorde. Et ça fait partie d'une des choses qu'on doit faire, une des trois choses majeures. Pratiquer la justice de Dieu, aimer la miséricorde, l'exercer, et marcher humblement avec Dieu. Lui demander de me montrer ce que j'ai encore à changer, de me donner la force de le faire, de m'encourager de différentes façons, de m'aider à être un encouragement pour ceux autour de moi aussi. Psaume 145. Psaume 145, ça, c'est vraiment formidable. C'est une promesse fantastique de Dieu, tellement encourageante. Psaume 145, versets 18 et 19. Verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Mais je vous rappelle, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », c'est ceux qui font la volonté de Dieu, qui lui appartiennent et à qui Dieu répond. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et la sincérité, c'est de faire sa volonté, de travailler à faire sa volonté. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Craindre Dieu, c'est marcher dans ses voies, mettre ses lois en pratique. Il entend leurs cris et il les sauve. Non seulement maintenant, dans cette vie physique, de toutes sortes de façons et de toutes sortes de dangers, mais il va les sauver en leur donnant le salut éternel. Il va les sauver de la mort éternelle en leur donnant la vie éternelle. Quand Dieu nous appelle, il nous montre clairement le chemin qu'on doit suivre. Il dit, « Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et tes enfants, toi et tes descendants. » C'est le même choix qu'on a à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un. C'est le choix que nous avons. C'est le choix que la personne a. Vous pourrez aller voir Deutéronome 30, versets 15-16, Deutéronome 30, 15-16 et 19-20. La même promesse s'adresse à ceux qui l'appellent aujourd'hui. Absolument. Et la foi, c'est notre base, mais pas notre foi, la foi de Christ en nous. Encore là, c'est encourageant, parce que ce n'est pas moi qui dois avoir la foi. Ce n'est pas moi qui dois avoir ma foi et qui dois travailler avec ma foi. Je dois demander la foi du Christ. Ça prend du temps à comprendre ça. Mais une fois qu'on l'a compris, on insiste pour que Dieu nous donne la foi du Christ. Pas penser que nous, on peut par nous-mêmes réussir quoi que ce soit. Ce que nous faisons, c'est l'Éternel qui l'accomplit pour nous. Toujours le même principe. Il faut toujours être accroché à lui. C'est pour ça que je vous donne le sermon d'aujourd'hui. Être constamment proche de Dieu. Lui demander son aide, le supplier de nous donner son aide. Hébreux chapitre 10, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10. Et le verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Pourquoi on a une libre entrée dans le sanctuaire devant le trône de Dieu, dans la salle du trône? C'est parce que le sacrifice de Dieu nous purifie lorsqu'on se repent de nos fautes et qu'on veut vraiment les abandonner et les changer. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, de sa foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Demandons à Dieu de voir nos fautes telles qu'elles sont, et de nous encourager, qu'on ne se décourage pas des voies, mais qu'on se mette en marche avec son aide pour s'en débarrasser. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 24, « Veillons donc les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et le jour est proche. Et c'est pour ça que notre observance du sabbat, que notre présence aux saintes convocations est absolument importante. Et c'est ce que l'apôtre Paul leur mentionne ici. Il nous faut rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, on va lire le verset 7 et 8. Jacques 4, 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Et moi, je ramène ça au titre de mon sermon. Approchez-vous de Dieu. Faites un effort pour vous approcher de Dieu et rester proche de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. En faisant ça, qu'est-ce que vous allez être capable de faire? Résister au diable. Vous allez avoir plus de force pour le faire. Mais je vous donne le sermon en même temps pour que vous soyez conscient qu'on peut maîtriser par la force de Dieu nos pensées, nos émotions, nos réactions, pour être capable justement de résister au diable, aux doutes qu'il peut amener aussi. Sachant ça, tout de suite on va vers Dieu si on est proche et il nous répond pour nous donner la force. On change de place, on change d'endroit, on change de poste ou on change de présence de quelqu'un qui est en train de nous amener quelque chose de douteux ou quoi que ce soit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est toujours la même chose. Nettoyez vos mains, il faut commencer par ça. Pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et au point de départ, on est tous irrésolus. Il nous faut vraiment prendre la décision, être résolu, être déterminé et même demander à Dieu de nous donner davantage de détermination pour être capable de persister. Sentez votre misère. Et on est misérable au point de départ. On n'a aucune force, aucune valeur, aucune puissance, aucun avenir, à moins que Dieu ne nous donne tout ça. Soyez dans le deuil et dans les larmes. ce qui veut dire regretter ce que vous avez fait comme transgression de loi. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si je fais ça, si je marche humblement avec Dieu, en lui demandant de me transformer, de me montrer ce que j'ai à changer, de me donner la puissance nécessaire pour y arriver, à ce moment-là, je me prépare au jour où Dieu va m'élever pour devenir un membre de sa famille et pour travailler dans le monde à venir. Vous savez, les calamités frappent de plus en plus dans le monde. Je ne vous l'apprends pas. Vous regardez les bulletins de nouvelles chaque jour et c'est justement frappant de voir à quelle vitesse les choses vont et comment les malheurs se multiplient dans le monde. Ça avait été écrit, ça avait été annoncé. Nous sommes rendus à cette époque-là. Et c'est pour ça que nous, on doit être davantage conscients de ce qu'on doit faire, qu'on ne doit pas prendre notre appel à la légère, qu'on doit s'appliquer à faire les choses qu'on a à faire. Et c'est possible de les faire avec l'aide de Dieu pour arriver au but. Seul, c'est décourageant. Mais par la puissance de Dieu, c'est formidable parce qu'il se manifeste. Plus je m'approche de lui, plus il s'approche de moi. Et plus il se manifeste directement dans ma vie. Je le vois, je le sens. Je le goûte et ça m'encourage. Et ce sera la même chose en ce qui vous concerne. Dieu vous aime, Dieu m'aime, Dieu aime ceux qu'il appelle de façon particulière. Il aime les autres aussi, il va les appeler un peu plus tard. Mais le petit groupe qu'il appelle maintenant, c'est avec eux qu'il travaille intensément. Et le Christ nous donne toute la force nécessaire pour que nous puissions y arriver. Vous savez une chose? Si certains d'entre nous n'y arrivent pas, ce ne sera pas la faute du Christ, mais ce sera la faute de la personne. Le Christ aura fait tout ce qu'il a à faire pour donner la chance à la personne de prendre ses décisions et d'arriver au but qui a été fixé par Dieu. Soyez certains, autrement dit, de l'amour de Dieu. Soyez certains de l'amour de Dieu. Il y a un avenir magnifique qui est en réserve pour tous ceux qui l'appellent. Restez constamment proche de Dieu par les moyens qu'on a vus aujourd'hui, qui sont des moyens simples à notre portée, qu'on peut utiliser chaque jour. Marchez avec lui, comptez sur lui, confiez-vous à lui, confiez-vous à lui en lui disant vos craintes, vos peurs, vos doutes, vos besoins et tout ça, mais en lui demandant d'abord de vous montrer les choses à changer et de vous donner de faire sa volonté. Et vous allez le voir vous répondre. Plus vous allez être constamment proche de lui, plus vous vous approcherez de Dieu. Plus lui va s'approcher de vous. On l'a vu à différentes places dans la Bible. Et plus il va se manifester directement dans votre vie. Et plus vous allez avoir l'assurance, quelles que soient les circonstances, d'entrer dans la vie éternelle, de faire partie du royaume de Dieu.